Bonjour, bienvenue sur La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach et praticienne narrative. Je vous livre ici, un mardi sur deux, un conte qui m'a inspirée. Quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bienvenue dans l'épisode 5 de La vie est un conte. L'histoire que je souhaite vous raconter aujourd'hui est tirée du recueil « Laisse-moi te raconter les chemins de la vie » de Roré Boucaille et est intitulée « La vraie valeur de la bague ». Il était une fois, deux fois, maintes fois, un jeune homme qui allait voir un sage. « Je viens vous voir, maître, parce que j'ai l'impression d'avoir si peu d'importance que cela m'ôte toute envie de faire quoi que ce soit. Tout le monde me dit que je suis un bon à rien, que je suis maladroit et stupide. Comment puis-je m'améliorer? Comment m'y prendre pour être mieux considéré ?» Le maître, sans le regarder, lui dit « Je suis vraiment désolé, mon garçon. Je ne peux t'aider car je dois d'abord résoudre un problème personnel. » Peut-être plus tard. Et en faisant une pause, il ajouta « Si tu voulais m'aider, toi, je résoudrais ce problème plus vite et ensuite, peut-être, pourrais-je te venir en aide ?»« J'en serais ravi, maître, » bredouilla le jeune homme en ayant de nouveau le sentiment qu'on ne lui accordait que peu d'importance et qu'on remettait ses besoins à plus tard. « Bien, » poursuivit le maître. Et, la donnant au jeune homme, il ajouta « Prends le cheval qui est dehors et va jusqu'au marché. Je dois vendre cette bague pour rembourser une dette. Il te faut en obtenir la plus grosse somme possible et, de toute façon, pas moins d'une pièce d'or. Va-t'en et reviens avec cette pièce aussi vite que tu le pourras. » Le garçon prit la bague et s'en fut. Aussitôt arrivé sur le marché, il se mit en devoir de la proposer au marchand. Ceux-ci la regardaient avec intérêt, jusqu'à ce qu'il annonce le prix qu'il en demandait. Dès qu'il mentionnait la pièce d'or, certains ricanaient, d'autres détournaient la tête. Seul un vieillard fut assez aimable pour prendre la peine de lui expliquer qu'une pièce d'or était bien trop précieuse pour l'échanger contre une bague. Désirant lui venir en aide, quelqu'un lui offrit une pièce d'argent et un récipient en cuivre. Mais le garçon avait des ordres. Ne pouvant accepter moins d'une pièce d'or, il rejeta l'offre. Après avoir proposé le bijou à toutes les personnes qu'il croisa sur le marché, au moins une centaine, abattu par son échec, il enfourcha son cheval et rentra. Comme il aurait aimé avoir une pièce d'or à donner au maître pour le soulager de ses soucis et recevoir son conseil ainsi que son aide, il revint chez celui-ci. « Maître, dit-il, je regrette. Il est impossible d'obtenir ce que tu demandes. Peut-être aurais-je pu échanger la bague contre deux ou trois pièces d'argent, mais je ne crois pouvoir tromper personne sur sa valeur véritable. » « Tu viens de dire une chose très importante, mon jeune ami, répondit le maître en souriant. Il nous faut d'abord connaître la véritable valeur de cette bague. Reprends ton cheval et rends-toi chez le bijoutier. Qui mieux que lui peut l'estimer ? Dis-lui que tu voudrais la vendre et demande-lui combien il t'en donnerait. Mais quoi qu'il te propose, ne la lui vends pas. Reviens ici avec ma bague. » Le jeune homme reprit sa chevauchée. Le bijoutier examina la bague à la lumière d'une lampe à huile. Il la regarda avec sa loupe, la soupesa et finit par dire « Mon garçon, dis au maître que s'il veut vendre sa bague tout de suite, je ne peux lui en donner plus de 58 pièces d'or. »«
58 pièces ? » s'exclama le jeune homme.
« Oui, répliqua le bijoutier, je sais qu'avec du temps, on pourrait en obtenir plus de 70, mais si la vente est pressée. »
Tout ému, le garçon courut chez le maître pour lui raconter l'histoire.
« Assieds-toi, » dit celui-ci après l'avoir écouté. « Tu es comme cette bague, un bijou précieux, unique. » En tant que tel, seul peut t'estimer un véritable expert. Pourquoi exiger du premier venu qu'il découvre ta vraie valeur ? Et en disant cela, il remit la bague au petit doigt de sa main gauche. L'amour est visionnaire. Il voit la divine perfection de l'être aimé au-delà des apparences auxquelles le regard des autres s'arrête. Christine Singer. Le jeune homme de ce conte cherche sa valeur dans le regard d'autrui. Il est avide de reconnaissance. Le souci est qu'il ne voit pas de retour positif de l'extérieur et que par conséquent, il a une piètre estime de lui-même. L'approbation des autres prend le pas sur son amour-propre et son estime personnelle. De plus, son besoin de reconnaissance semble conditionner son bien-être et sa motivation à agir. Tout d'abord, il est important de rappeler que ce besoin de reconnaissance est un besoin fondamental que nous avons tous de manière plus ou moins marquée. Recevoir des signes de reconnaissance, c'est d'une certaine façon être aimé et apprécié. Rappelons-nous que les paroles valorisantes sont un des 5 langages de l'amour que nous avons vu lors de l'épisode 4 de La vie est un conte, intitulé « Les cadeaux pour le Maharaja ». Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire maintenant et revenir à cet épisode ensuite. Dans la préhistoire, l'homme a dû vivre en groupe pour survivre. D'où ce besoin humain tout à fait normal d'appartenir au groupe, d'en être reconnu. Le souci arrive quand ce besoin devient abyssal et donc impossible à combler, comme c'est le cas pour le jeune homme du conte. Quand ce besoin reste raisonnable, il est très utile. En effet, il nous aide à évoluer en sécurité. C'est ainsi que l'enfant se construit. Il cherche, dans le regard de ses parents, la confirmation que ce qu'il fait est bien, bon ou juste. C'est pour lui associé à une preuve d'amour, et cela vient remplir son réservoir émotionnel. Là encore, on peut dire « tout est poison, rien n'est poison, tout est question de mesure ». Si un des parents, ou même les deux, n'a pas tenu ce rôle de validation extérieure, il est probable qu'en grandissant, l'enfant aura développé la croyance limitante qu'il n'a pas beaucoup de valeur. Le comportement inverse, c'est-à-dire la survalorisation de l'enfant pendant ses jeunes années, aura étonnamment également une conséquence négative, car cela pourra le conduire à une dépendance aux signes de reconnaissance une fois adulte. C'est ce que certains appellent les dépendants affectifs. Regardons plus en détail comment s'échangent ces signes de reconnaissance qui peuvent être verbales, paroles valorisantes, ou non-verbales, un sourire, un froncement de sourcils, etc. Eric Berne, le père de l'analyse transactionnelle, s'est beaucoup intéressé aux signes de reconnaissance, stroke en anglais. Ceux-ci peuvent être positifs ou négatifs, conditionnels ou inconditionnels. Un signe de reconnaissance est dit conditionnel quand il est lié à un comportement observable dans un contexte donné. Il est inconditionnel quand il est formulé comme une généralité sur une personne. Attention, car les signes de reconnaissance négatifs inconditionnels peuvent être dévastateurs, car ils collent des étiquettes identitaires comme « t'es nul ». C'est très différent de dire à quelqu'un « dans cet article, tu n'as pas suffisamment étayé ton propos avec des données concrètes » et « ton article est nul » ou pire « tu es nul ». En effet, quand le signe de reconnaissance se raccroche à un comportement observable, je sais ce que j'ai à faire pour améliorer la qualité de mon article, par exemple. Il arrive que l'on prenne un signe conditionnel négatif, tu n'as pas bien travaillé sur cet article, pour un signe inconditionnel négatif, du type tu es mauvais. Les personnes qui font cette confusion ont des difficultés à entendre la critique. C'est pourquoi, à chaque retour négatif que nous recevons, il peut être intéressant de se poser la question « qu'est-ce que cela dit de ce que je peux améliorer ?» et non « qu'est-ce que cela dit de moi ?» Comme on dirait en pratique narrative, la personne n'est pas le problème. Les signes négatifs inconditionnels non seulement ne nous aident pas à aller vers une amélioration quelconque, mais en plus, ils vont avoir beaucoup d'impact. Ceci est dû à nouveau à un biais cognitif, c'est-à-dire à un biais du cerveau, et ce biais-là est le biais de négativité. Le cerveau est ainsi fait qu'il va être davantage marqué par les expériences négatives que par les expériences positives. Il prend plus en compte les mauvaises nouvelles que les bonnes. Il va porter plus attention aux critiques qu'aux compliments. Selon certaines études, le biais de négativité est si puissant qu'il ne faut pas moins de 5 signes de reconnaissance positifs pour contrebalancer un signe de reconnaissance négatif. Avoir ce chiffre en tête peut être assez intéressant car si par exemple j'ai un stroke négatif à faire à un collaborateur, à un ami ou à un de mes enfants, je vais devoir me poser la question de qu'est-ce que je mets dans la balance en termes de stroke positif. Est-ce que je veille à nourrir cette personne de manière équilibrée? Car comme moi aussi j'ai un biais de négativité, je vais avoir tendance à beaucoup plus facilement voir les défauts d'une personne que ses qualités. D'ailleurs, ça peut être intéressant de prendre un papier et un crayon et de mettre le nom des personnes avec qui je suis le plus en lien et de lister leurs qualités et leurs défauts, en prenant le temps de réfléchir pour que les deux colonnes aient le même nombre d'items. Il se pourrait bien que la colonne des qualités soit beaucoup plus difficile à remplir que la colonne des défauts. Faire ça va m'aider à nourrir justement les fameux 5 feedbacks positifs pour un feedback négatif. Vous avez peut-être entendu la fameuse technique sandwich qui consiste à donner un feedback négatif entre deux feedbacks positifs. Ça peut être une idée, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez choisir de ne pas faire tout en même temps, mais en gardant conscience de nourrir cet équilibre tout au long d'une unité de temps, comme par exemple une journée. Ce qui compte vraiment, c'est que les signes de reconnaissance soient véritablement sincères. Et pour cela, je vous invite dans vos deux colonnes à vous appuyer à chaque fois sur des exemples concrets. Par exemple, chez mon collaborateur, j'apprécie sa bonne humeur. À quoi je vois sa bonne humeur? En revanche, son côté critique m'énerve. Ok, qu'est-ce qui fait que j'estampille son comportement de côté critique. Vraiment, à chaque fois, aller chercher le comportement observable. Enfin, le besoin de reconnaissance est si fort qu'une personne en pénurie de feedback positif va préférer recevoir des feedbacks négatifs que pas de feedback du tout. Cela peut, par exemple, conduire certains enfants à être turbulents, provocateurs, cancres, juste pour avoir de l'attention et des feedbacks. Revenons à notre compte. Notre jeune homme dit recevoir du feedback, mais il semble n'en recevoir que du négatif. Ou alors peut-être que s'exprime là son biais de négativité qui est si fort qu'il ne retient que ceux qui sont négatifs. Ou alors il ne tient absolument pas compte des quelques compliments qu'il reçoit. Peu importe. Il se croit sans importance, maladroit et stupide. Quand il vient voir le maître, un autre biais du cerveau est à l'œuvre. Vous l'avez peut-être repéré. Nous l'avons déjà croisé à l'épisode 1 de La vie est un conte sur l'éléphant enchaîné et les croyances limitantes. Il s'agit du biais de confirmation. Notre jeune homme pense qu'il est sans importance et donc il va regarder le monde en cherchant des preuves de cette croyance. Et donc il va interpréter par exemple le comportement du maître qui lui dit qu'il ne peut pas tout de suite s'occuper de lui car il doit rembourser une dette d'abord. Il va l'interpréter comme une preuve supplémentaire de son peu d'importance. Alors comment faire quand mon besoin de reconnaissance est si prégnant qu'il m'empêche d'avancer, qu'il joue sur mon estime personnelle? Pour cela, nous allons voir une façon de faire en 4 étapes. La première, c'est accepter ce besoin comme un besoin naturel. Arrêtons de nous faire la guerre et acceptons-nous comme nous sommes avec ce besoin. Vous connaissez ce phénomène où nous en rajoutons une couche en nous faisant la guerre à nous-mêmes. Nous fuyons par exemple certaines émotions comme la peur et la colère et nous finissons par avoir peur d'avoir peur et nous sommes en colère d'avoir été en colère. Donc la première étape pour moi c'est déjà accepter. Accepter qu'aujourd'hui le regard de l'autre importe beaucoup pour moi. Encore une fois, ce besoin de reconnaissance est lié à un besoin fondamental qui est le besoin d'appartenance et plus largement du besoin d'amour. Pour Marshall Rosenberg, les besoins sont universels, même si, encore une fois, ils n'ont pas le même degré d'importance chez un individu ou chez un autre. Une fois j'ai accepté ce besoin de reconnaissance comme un besoin naturel, normal, je me pose la question de savoir sur quoi porte mon besoin de reconnaissance. Deuxième étape, de quoi je suis fière et dont j'ai envie que mon entourage le reconnaisse. En se posant cette question, je me tourne vers l'intérieur et je commence moi-même à m'apporter de la reconnaissance et de la valeur. D'ailleurs, dans le mot « reconnaissance », il y a la locution « re ». Se reconnaître, c'est se connaître à nouveau. Et donc, ça commence par soi. Vous m'entendrez souvent citer cette phrase de Gandhi que j'adore, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde, ça commence par toi. » Donc, quelles sont mes fiertés que j'aimerais qu'on me reconnaisse ? Qu'est-ce que j'ai fait et que je voudrais que les autres me reconnaissent ? Pour faire cela plus facilement, je peux lister mes actions dont je suis fière sur une feuille et à côté de chaque action, j'inscris les qualités, les ressources et les compétences sur lesquelles je me suis appuyée pour faire ces actions. Une fois que vous avez listé ces actions et les compétences associées, vous pouvez passer à la troisième étape. C'est travailler sur le faire savoir. Soit affirmer mes fiertés oralement et en public, et ce n'est pas être arrogant que de dire que j'ai ressenti une certaine fierté en faisant telle ou telle action. Et faisant cela, souvent l'entourage se met à en rajouter une deuxième couche en soutenant mes propos et en m'en complimentant ou en me félicitant. Ou si je ne me sens pas d'aller jusqu'à énoncer mes fiertés pour des questions de culturelles ou des questions de timidité, je peux aussi, avec une personne de confiance, aller solliciter un feedback sur une de mes actions. Quand je reçois ce feedback, la question est de savoir comment je capitalise sur le positif et comment j'accueille le négatif comme un cadeau qui m'est fait pour m'améliorer. Enfin, dernière étape ou petit bonus si vous préférez, il est possible de faire un carnet de strokes positifs. Personnellement, quand je me suis lancée en tant que coach, les retours positifs de mes premiers clients m'ont été très précieux pour alimenter mon envie de continuer et d'aller encore plus loin. Et donc j'ai consigné, non pas dans un petit carnet qui est, je pense, une bonne idée, mais dans un document Word qui me permet de faire des copier-coller quand les retours sont par mail. Je trouve ça plus rapide. Et quand je ressens le besoin de reconnaissance et que j'ai du mal à un moment donné à me le donner moi-même, alors je retourne dans ce précieux document qui me permet de regonfler mes batteries. Maintenant, si on regarde du côté équipe et du côté entreprise, si vous êtes manager, l'exercice dont je parlais tout à l'heure de poser sur le papier les défauts et les qualités de chacun de vos collaborateurs en veillant à ce que les deux colonnes soient équilibrées et ancrées sur des faits peut être une bonne base pour alimenter vos feedbacks en gardant en tête la règle des 5 strokes positifs pour contrebalancer les strokes négatifs. Autre idée, dans un de mes anciens services, nous avions mis en place une boîte à fleurs et à cadeaux. Alors qu'est-ce que c'est qu'une boîte à fleurs et à cadeaux ? Il s'agissait d'une urne placée dans un endroit accessible à toute l'équipe, à côté de laquelle était placée une pile d'enveloppes et de cartes, et chacun pouvait, à tout moment, glisser une enveloppe au nom d'un de ses collaborateurs ou même de son manager en donnant une fleur ou un cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est une fleur ? Qu'est-ce que c'est un cadeau ? Une fleur est quelque chose qu'on a particulièrement apprécié. C'est un stroke positif conditionnel. Ou même, il peut être inconditionnel. Personnellement, je préfère toujours quand c'est conditionnel, je trouve que c'est plus porteur. Et nous mettions aussi un cadeau. Et un cadeau, c'est une piste d'amélioration qui repose sur une fleur. En fait, qui permet d'aller un cran plus loin. Par exemple, la fleur, j'ai beaucoup aimé la réflexion que tu as apportée à telle réunion quand tu as dit ta ta ta. Et mon cadeau, ce serait peut-être la prochaine fois de le dire plus tôt, de ne pas attendre les 5 dernières minutes de la réunion pour t'exprimer parce que c'était vraiment porteur. Voilà, ça peut être un exemple de fleurs et de cadeaux. En tout cas, cette boîte à fleurs et à cadeaux avait été une expérience pour moi très vertueuse. Elle m'aidait véritablement à poser un regard sur mes collègues différents, car je cherchais à noter à chaque fois ce qui pourrait faire l'objet d'une petite enveloppe. Et je me voyais noter plein de fleurs dont je n'avais jamais fait part à mes collaborateurs. Et inutile de dire que les enveloppes que je recevais pouvaient aller directement alimenter mon carnet à stroke. Ceci est un témoignage d'une expérimentation vertueuse vécue dans un contexte donné. Maintenant, c'est à vous de voir si cette boîte à fleurs et à cadeaux peut vous intéresser, si dans votre contexte à vous, ce serait pertinent ou non. Il n'y a bien sûr aucune obligation à le faire, c'était juste une illustration de comment alimenter le besoin de reconnaissance de tout un chacun. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Un grand merci pour m'avoir écouté et je vous retrouve avec grand plaisir dans 15 jours pour parler de la force d'un bœuf et du pouvoir du regard posé sur l'autre. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir est de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestunconte.com. À bientôt.